Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Radio RDL 103.5 et vous écoutez ce matin Coup de théâtre de la Comédie de Colmar, c'est le deuxième coup de théâtre de l'année. Bonjour Christine.
Bonjour Francis au micro et bonjour Francis à la régie aussi.
Bonjour Francis à la régie. Voilà, et bien Christine, nous parlons ce matin des chroniques qui vont quand même durer entre 2h15 et 2h30, donc c'est pas rien. Un grand spectacle d'Éric Charron.
Oui.
Et qui nous vient du théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, un ensemble théâtral que vous connaissez déjà parce que nous avons déjà rencontré Éric Charron en 2022, c'était l'ouverture de 2022 et c'était dans les locaux de Cunégel.
Oui, c'était d'ailleurs sur le plateau du Grillen Bright puisqu'il y a des choses qui commençaient déjà même devant le Grillen en extérieur. C'est un spectacle qui était déambulatoire et qui peut se jouer dans beaucoup d'endroits et qui s'intitulait, je crois, Série Noire, Chambre Bleue.
Oui, Chambre Bleue, c'était un polar de Simenon qui avait été mis en scène de manière déambulatoire, comme tu dis. Vous vous rappelez peut-être, pour beaucoup, eh bien, c'était assez intéressant puisqu'il s'agissait d'un homme pris entre deux femmes et qui était confronté à la justice. Et puis, cette justice, nous la retrouvons ici parce que apparemment, c'est un thème qui intéresse tout particulièrement Éric Charron. Éric Charron, qui a pris vraiment de front deux grands textes d'Émile Zola, sont L'Assommoir et La Bête humaine.
Oui, tout à fait. Et puis, bon, Éric Charron, non seulement vous avez pu voir une mise en scène de lui, mais vous l'avez peut-être vu comme comédien, notamment dans 8 heures ne font pas un jour de Julie Déliquet, l'adaptation aussi d'un feuilleton qui était aussi une sorte de chronique, en fait, et sans doute que vous avez peut-être aussi eu l'occasion de le voir parce qu'il a joué aussi dans la troupe de Sylvain Creusevaux et donc il est à la fois comédien et d'ailleurs il joue dans le spectacle Les Chroniques adapté donc de ces deux romans de Zola.
Oui, mais c'est quand même quelqu'un qui a fait des études littéraires, d'où peut-être Zola. Alors ce qui l'a intéressé en particulier chez Zola, c'est la manière dont Zola a travaillé, enfin on le sait en général parce que ce naturalisme de Zola est quand même assez bien présenté à l'école, il me semble. En général, tout le monde lit Germinal ou tout le monde connaît Germinal, moins peut-être La Bête humaine, peut-être un peu plus L'Assommoir. Et Zola, qui a fait des recherches, qui faisait des recherches précises, parce qu'il s'agissait surtout, c'est ce que Éric Charron reprend de Zola, c'est-à-dire une sorte d'histoire de la violence qui est celle des luttes sociales, mais aussi des interclasses, c'est-à-dire des problèmes qui se posent entre les classes sociales et dont les luttes ont été féroces tout au long du 19e siècle et du 20e, du début du 20e. Aujourd'hui, on en parle moins, mais c'est très intéressant de voir ce qu'il en est de cette violence profonde qui existait en France et qui est dans les différentes classes sociales que Zola a utilisées pour en faire des romans pluriels,
oui,
autour de la question de l'hérédité à partir des Rougon-Macquart.
Voilà, puisque en fait c'était l'histoire, une histoire sociale du Second Empire en fait, chez Zola, autour de ces deux grandes familles, les Rougon-Macquart, et l'on voit effectivement que Zola à la fois a analysé, alors il se faisait des petites fiches, il y avait un travail d'enquête, d'où d'ailleurs le mot chronique pour comme titre du spectacle, parce qu'il y avait cette exploration sous forme d'enquête véritablement sur les milieux sociaux. Et là, on voit que dans L'Assommoir et dans La Bête humaine, il s'agit du milieu ouvrier, parce qu'on aurait pu adapter la curée, et à ce moment-là, on aurait plus été dans le milieu bourgeois et dans les milieux parvenus.
Ou même chez les artistes.
Chez les artistes, comme dans l'œuvre, par exemple. Et puis, il y avait cette question, alors le naturalisme aussi, hein, outre cette enquête sur les milieux, il y avait cette exploitation des connaissances toutes nouvelles sur la génétique et sur l'hérédité, et le fait que, effectivement, depuis la tare de la fameuse tante Dide au début des Rougon-Macquart, on s'aperçoit que la tare de la tante Dide s'est transmise, avec d'ailleurs aussi la question dans le milieu ouvrier de l'alcoolisme, et les personnages sont travaillés par une fêlure qui produit des tares l'histoire des vices et ces tares et ces vices sont à l'origine aussi de cette violence peut-être quasi systémique que Éric Charron va de façon, je trouve très intéressante, transposer à notre époque aussi, c'est-à-dire il relie les deux romans de Zola en essayant de les transposer dans notre époque.
En montrant qu'au fond, cette violence se continue. C'est au fond la violence de la société française, comme par ailleurs on a pu avoir beaucoup de films, de livres aussi sur la violence de la société américaine. Alors cette violence dans la société française, elle est particulièrement sensible dans un... des derniers romans des Rougon-Macquart, qui est donc La Bête humaine, un roman de 1890, et Charron le met en relation avec L'Assommoir, qui est de 1877. Mais bon, il s'agit de plusieurs générations, en particulier de la mère et d'un fils. C'est ici, c'est-à-dire le fils dans La Bête humaine et la mère Gervaise dans L'Assommoir.
Oui, alors bien sûr, tout le monde se souvient de Gervaise, la blanchisseuse, qui va avoir plusieurs compagnons. Elle aura comme compagnon Auguste Lantier, dont elle aura des enfants. Et puis ensuite, elle va revivre se marier
d'ailleurs avec quelqu'un qui s'appelle
Coupeau. Et qui était couvreur et qui malheureusement
aura un accident.
Et donc, on va voir effectivement une forme d'ascension de Gervaise et ensuite sa déchéance totale parce que effectivement, son mari...
Ascension dont l'acmé est un repas avec une voix qu'elle... Oui. Propose à tous ces gens parce qu'elle a développé sa petite entreprise de blanchisserie, elle a même deux personnes qui travaillent pour elle, et puis très rapidement, l'alcool aidant, puisque oui, l'assommoir, c'est le lieu où coule cet alcool, puisque c'est le bistrot, c'est le nom du bistrot, voilà. Le bistrot qui assomme, au fond, en grande partie le public et qui rentre pour boire, et bien ça sera la déchéance, jusqu'à la déchéance finale où elle meurt de pauvreté.
Dans un absolument sordide. De façon absolument sordide. Et en fait, donc, dans les chroniques d'Éric Charron, on voit aussi l'un de ses fils, donc Jacques Lantier, qui, alors là aussi tout le monde s'en souvient, parce que quand on se souvient de La Bête humaine, on peut se souvenir effectivement des meurtres horribles et de l'importance des viols, enfin de cette question que va traiter Éric Charron, mais on se souvient aussi de la locomotive, la fameuse liaison.
Que Jacques Lantier appelait la liaison, puisqu'il était mécanicien de la liaison.
Voilà,
mais Jacques Lantier, ce qui est assez intéressant, c'est que Jacques Lantier a en lui... fondamentalement cette fêlure dont tu parlais.
Oui,
c'est
d'ailleurs Gilles Deleuze, hein, qui dans un livre qui s'appelle « Logique du sens » a écrit un article, un chapitre qui s'appelle « Zola et la fêlure ». Et voici ce que dit Gilles Deleuze à propos de cette analyse de la fêlure dans les Rougon-Macquart et en particulier dans La Bête humaine. « L'hérédité n'est pas ce qui passe par la fêlure, elle est la fêlure elle-même, la cassure ou le trou imperceptible. La fêlure est donc cette prédisposition héréditaire à cause de laquelle un personnage est dominé par ses pulsions, par son instinct. À travers elle, l'instinct cherche l'objet qui lui correspond dans les circonstances historiques et sociales de son genre de vie. Le vin, l'argent, le pouvoir, la femme. Et donc, Gilles Deleuze analyse vraiment le comportement des personnages à partir de cette fêlure et de cette carte que j'évoquais.
Oui, la fêlure, d'ailleurs, il la renvoie à la pulsion de mort de Freud dans ce texte-là. Il parle d'instinct plutôt que de pulsion. Mais bon, c'est surtout l'histoire, et Deleuze la raconte ensuite dans le détail, de la bête humaine qui est le tableau, le théâtre de cette fêlure, puisque Jacques Lantier est mu profondément par à la fois le désir des femmes et le désir de les tuer. C'est-à-dire le désir sexuel est immédiatement lié à la volonté de d'assassiner, la pulsion de vie, si on veut, est immédiatement liée à la pulsion de mort.
Pourtant, il lutte, c'est ça.
Il lutte précisément contre ça, mais n'arrivera pas.
C'est un homme sobre, c'est quelqu'un qui
essaye
de lutter.
Il essaye de réagir, il est en opposition complète même de ce qui le meut. et de la pulsion qui le traverse. Et quand il, tout commence, disons-le quand même, lorsqu'il voit rapidement un train passer, et dans ce train, il voit un couple en train d'assassiner quelqu'un.
Oui,
et évidemment, ça le renvoie, à sa propre envie de tuer. Il va rencontrer ce couple, il ne saura pas très bien si c'est lui qui a tué, parce qu'il ne sait pas si c'est véritablement ce couple. Alors ce couple, c'est quelqu'un qui s'appelle Séverine, la femme.
La femme, oui,
et,
oui.
Et Roubaud.
Oui, c'est ça.
Roubaud tue.
Et puis ils ont tué Grand Morin, donc qui est le ponte de...
Des chemins de fer, parce que Roubaud est un peu un sous-chef de chef de gare.
Et ponte, en fait, il n'est pas tout à fait blanc, puisqu'il avait violé
Séverine.
Voilà,
et donc Roubaud et Séverine se vengent sur ce type-là.
Voilà,
et se venge sur
d'une certaine façon Jacques Lantier. En tout cas, Roubaud pousse d'une certaine façon Séverine dans les bras de Jacques Lantier. Ce qui est assez étrange, puisque le meurtre est lié à de la jalousie et à de la vengeance, et en même temps, il y a ce trio qui va se créer.
Alors, la fêlure passe des uns aux autres, c'est ce que montre Deleuze. Et finalement, bon, pour le dire rapidement, mais c'est pas grave, vous allez retrouver tout cela, c'est-à-dire que... Séverine pousse son amant Lantier à tuer Roubaud. Et puis finalement, confronté au meurtre lui-même, eh bien, Lantier va tuer Séverine. Mais dans toute cette affaire...
Alors là, on divulgage, mais bon, sans doute êtes-vous beaucoup à connaître l'histoire. Et ce n'est pas très grave, parce que justement... Éric Charron va un petit peu modifier les choses, puisqu'il s'agit d'une relecture, d'une réécriture, puisqu'ils vont rajouter dans le spectacle un personnage qui n'existe pas chez Zola.
Et s'il existe, mais pas sous forme féminine.
Pas sous forme
féminine. C'est-à-dire, c'est le juge dénisé.
Mais il ne va pas jusqu'à faire un procès à Lantier lui-même, en fait.
Parce qu'il a choisi quelqu'un d'autre, un pauvre type, Caboche ou...
Et donc, effectivement, le personnage existe, mais n'est pas exactement traité de la même façon, et il n'y aura pas un procès de Lantier, alors que là, dans les chroniques, il va y avoir un procès de Lantier,
voilà. Parce que, au fond, ce que Zola veut montrer, c'est que la justice est profondément injuste. Elle est aussi une justice de classe. Et ça, c'est transformé dans le spectacle lui-même.
Oui, bien sûr, et puisque Zola esquisse cette chose-là, la fait pressentir, mais ne va peut-être pas jusqu'au bout, alors que Éric Charron, dans la réécriture, va aller jusqu'à ce besoin de justice et va le mettre en œuvre. Alors on peut-être lire un extrait de la pièce, donc de cette réécriture, aussi pour vous faire entendre la façon dont les dialogues ont été réécrits. C'est le passage où Jacques Lantier discute d'abord avec Flore et ensuite avec Denizet, puisque c'est...
Qui est une femme,
et c'est le procès qui organise des retours en arrière, qui est juge. Ouais. Alors c'est Flore qui parle d'abord, la cousine de Jacques. Et toi, t'en as pas d'amoureuse?
Non.
On m'a bien dit que t'abominais les femmes. C'est vrai que t'aimes que ta machine. On en plaisante, tu sais. Comme si t'avais des caresses que pour elle. Moi, je dis ça parce que je suis ton amie. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu sais, je te vois passer le matin sur ta machine. Je te guette dans ces broussailles là-bas où je suis assise. Mais toi, tu regardes jamais. Je te les dirai à toi les choses auxquelles je songe. Mais pas maintenant, plus tard. Quand on sera tout à fait bons amis.
Il lui prend les mains, exactement comme la première fois. Une lutte s'engage, comme avant, deux enfants. Elle lutte, puis plus s'abandonne. Et c'est à ce moment-là que pour Jacques, une énième fois, le monde s'écroule ou disparaît. Puis ailleurs, comme dans un autre temps, Jacques est maintenant face à une autre femme, contraint d'avouer ce qui le tient et le hante. Depuis toujours.
Alors, c'est ça votre mal?
Je sais pas. Je sais plus. Je me rendais pas compte de ce que je faisais.
Alors qu'elle s'était abattue sur le dos et qu'elle semblait avoir abandonné toute idée de combat, vous l'avez empoignée à la gorge.
Comme en plein cauchemar. Je me croyais guéri, comme les autres rêvent qu'à une chose. Moi, depuis longtemps, je suis comme enragé.
Une fureur vous a pris qui vous faisait chercher des yeux autour de vous, une arme, une pierre, enfin quelque chose pour la tuer. Des ciseaux là, sur la table, et vous les auriez enfoncés dans sa gorge.
On a grandi ensemble. Elle m'aimait sans doute profondément. Moi aussi je l'aimais, je vous jure, de tout corps.
Mais un grand froid selon vous vous a dégrisé. Vous vous êtes senti vous-même effrayé.
Je me questionnais déjà gamin. C'est vrai que Gervaise, ma mère, m'a eue très jeune. Puis elle était guère d'aplomb. À croire que dans ma famille, on est tous bancal. Il y en a beaucoup déjà qu'on connu, qu'ont eu, comme moi, une fêlure. Moi, je sentais bien. J'étais pas en mauvaise santé, mais j'avais des sortes de crises. La honte de les voir venir, des pertes d'équilibre, comme des cassures, des trous par lesquels tout s'échappait, au milieu d'une espèce de grande fumée qui me monte dans la tête et qui déforme tout. Je m'appartiens plus. J'obéis aux muscles, comme une bête. Pourtant, je bois pas, même pas un petit verre d'eau de vie. Quand je bois de l'alcool, ça me rend fou. Je finis par croire que je paye pour les autres, pour les pères, les grands-pères qui ont bu, des générations d'ivrognes qui m'ont pourri le sang. C'est eux qui me l'ont donné, cette sauvagerie.
Alors vous voyez bien combien cet extrait reprend ce que nous disions tout à l'heure sur l'importance de la fêlure, sur le trou qui fait vraiment comme un vertige, qui aspire, qui attire Jacques Lantier. Et vous voyez comment Éric Charron a tissé finalement les différents niveaux des chroniques, les différentes temporalités de la pièce.
Oui, ouais. De toute façon... ce dont il s'agit, c'est d'une violence congénitale qui passe à l'intérieur de la famille, mais qui est aussi finalement sociale, qui est fondamentalement sociale. C'est pas simplement... Alors évidemment, à l'époque, on a parlé essentiellement, puisque c'est ce qu'on découvre, qu'il y a de l'hérédité, que le mal pourrait s'hériter. Mais là, c'est un mal beaucoup plus profond qui est en réalité un mal social.
Oui, puisqu'il est question là de milieux ouvriers dans lesquels l'alcool est extrêmement répandu, l'ivrognerie aussi.
Et la misère.
Et la misère, bien sûr. Et donc, peut-être qu'on va vous faire entendre, une fois n'est pas coutume, parce que ça fait très longtemps qu'on ne l'écoute plus tellement, Léo Ferré, dans cette chanson qui s'intitule « Madame la misère ».
Madame la misère, écoutez le vacarme que font vos gens, le dos voûté, la langue bas. Quand ils sont assoiffés, ils se saoulent de larmes. Quand ils ne pleurent pas, ils crèvent sous le charme de la nature et des gravats. Ce sont des enragés au ventre translucide qui vont sans foi ni loi, comme on le dit parfois. Régler son compte à mon seigneur éphéméride qui a pris leur jeunesse et l'a mise en ses rides. Quand il ne leur restait que ça. Madame la misère, écoutez le tumulte qui monte des bas-fonds comme un dernier convoi, traînant des mots d'amour, avalant des insultes et tenant par la main leurs colères adultes afin de ne les perdre pas. Ce sont des enragés qui dérangent l'histoire et qui mettent du sang sur les chiffres, parfois. Comme si l'on devait toucher du doigt pour croire qu'un peuple heureux, rôtant tout seul dans sa mangeoire, vaut bien une tête de roi. Madame la misère, écoutez le silence qui entoure le lit des faits des magistrats. Le code de la peur se rime avec potence. Il suffit de trouver quelques pendus d'avance. Et mon Dieu, ça ne
Madame la misère
de Léo Ferré. Voilà.
Alors, vous êtes sur Radio RDL 103.5. Vous écoutez Coup de théâtre de la Comédie de Colmar. Et ce matin, avec Christine, nous parlons des chroniques.
Oui,
des
c'est...
chroniques d'après l'œuvre d'Émile Zola, adaptation et mise en scène d'Éric Charron.
Oui, et vous pourrez voir ce spectacle deux soirs, le jeudi 29 janvier à 19h. Et le vendredi 30 janvier à 20h, c'est un spectacle qui dure 2h15 au moins, puisque effectivement il rassemble les deux grands romans de Zola que sont L'Assommoir et La Bête humaine, dans une réécriture qui transpose cette histoire qui est censée se passer sous le Second Empire, qui le transpose aujourd'hui. Et dans la mise en scène au départ, c'était à Saint-Denis et dans le cadre de Saint-Denis que se passait cette histoire pour la troupe d'Éric Charron.
Oui, alors, il s'agit bien sûr de la mise en place ici de deux romans. Il s'agit de théâtraliser deux romans d'Émile Zola. Il y aura d'abord un prologue, il y a un entracte, d'après ce que je comprends. D'après ce qui a été dit, peut-être ou pas. Et il y a ensuite une deuxième partie, donc une première et une deuxième partie, et enfin un épilogue, voilà.
Oui, alors ce qui est particulier quand même, et ça rejoint un peu ce que nous avions vu de cette compagnie lorsqu'ils étaient venus présenter leur Simenon, c'est le fait que ça commence normalement à l'extérieur, c'est-à-dire le prologue est joué à l'extérieur comme pour faire le lien entre le réel et la fiction, comme s'il y avait un passage entre le réel et la fiction qui fait que les spectateurs assistent à une partie du spectacle déjà en extérieur et qu'ensuite ils sont conduits vers l'intérieur.
Oui, Éric Charron tient généralement à inscrire le théâtre dans la société, c'est-à-dire
tout à fait.
Ça se passe aussi avec nous. Les spectateurs ne sont pas simplement spectateurs, ils font partie de ceux qui vivent des choses pareilles, c'est pourquoi d'ailleurs cette violence du 19e siècle, on retrouve tous les éléments des tableaux que nous connaissons de la fin du 19e siècle, l'absinthe par exemple.
Oui, sur l'importance de l'alcool, par rapport à aujourd'hui, ce sera aussi vraiment la question de la domination masculine et
voilà,
des féminicides.
Justement, j'allais y venir, parce que au fond, au corps, il y a quand même aussi un féminicide les grands personnages de ces deux romans sont des femmes.
Oui.
Sont des femmes. L'une meurt de misère et l'autre est poignardée. C'est pas rien. C'est aussi une femme qui rend justice dans le spectacle par ailleurs. Et effectivement, tout tourne autour. Alors, il s'agit fondamentalement de l'alcoolisme des hommes parce que c'est l'affaire.
C'est encore aujourd'hui une question très importante. C'est la question de l'alcool et de l'alcoolisme aujourd'hui dans les violences faites aux femmes. Ça demeure encore très important.
Là, c'est plus encore parce que ça touche même quelqu'un qui ne boit pas d'alcool. C'est-à-dire.
Alors parce qu'il y a cette pulsion
voilà.
d'assassinat.
Il y a cette pulsion, c'est-à-dire que l'alcool est aussi le symbole de cette pulsion d'assassiner, de cette volonté de tuer, qui est d'ailleurs fondamentalement masculine dans ces deux romans.
Bien sûr, bien sûr. Et donc c'est le théâtre d'Éric Charron, donc c'est un théâtre qui est en prise avec le réel et qui commence donc dans le réel avec cette entrée du spectacle à l'extérieur, mais c'est aussi un spectacle qui met en avant le jeu, les acteurs, et il y a du monde au plateau. Bon, il y a déjà trois actrices justement, puisque ce sont les femmes qui sont mises en valeur. Il y a deux acteurs et puis il y a aussi des musiciens, puisque comme on l'avait vu déjà dans La Chambre Bleue, la musique, la chanson sont des éléments très importants, et là on retrouve toujours un peu le fil rouge de la programmation.
Oui, parce que la musique c'est à la fois une bande originale d'un film, comme il dit, mais c'est aussi improvisé, puis il y a des chansons. C'est-à-dire les chansons sont relativement importantes.
Oui.
Puisque la chanson, c'est une affaire d'époque, mais c'est encore la nôtre. Et puis, tu parles de la musique, mais et de la chanson, c'est parce que là aussi, nous nous trouvons au milieu du public, parce que le public, lorsqu'on est dans la salle, en principe, est en bifrontal.
Oui.
Alors, j'imagine que ça sera en bifrontal.
Alors, c'est vrai que c'est la
nous
surprise.
Nous ne connaissons pas l'organisation du spectacle à Colmar.
Oui, puisqu'à chaque fois, dans chaque salle, Éric Charron va devoir inventer un dispositif un petit peu différent selon la configuration de la salle. Et ça fait partie de ce qu'il aime aussi, cette théâtralité au présent, qui fait que chaque spectacle n'est jamais tout à fait le même, puisqu'il faut organiser cet extérieur, cet intérieur, ce passage de l'un à l'autre à chaque fois de façon originale. Donc ça c'est.
Mais aussi peut-être parce que le bifrontal renvoie au procès, c'est-à-dire il y a quelqu'un au milieu, c'est-à-dire qui est mis en accusation par une femme, mais qui est juge, et celui qui est mis en accusation, c'est donc en particulier Jacques Lantier, c'est-à-dire celui qui n'est pas considéré comme un meurtrier chez, enfin en tout cas par la justice chez Zola, et qui va mourir autrement, enfin bon bah il meurt nécessairement puisqu'il est pris dans la spirale de cette hérédité et finalement de admettons de la pulsion de mort, admettons ça
oui,
comme ça.
Et donc c'est un bifrontal qui permet de mettre ce dispositif de la justice en valeur, et en même temps en général un bifrontal évite aussi la monumentalité d'un décor. Là, il y a quand même plusieurs lieux, et donc les décors,
lieux sont esquissés.
Voilà, sont esquissés à partir d'éléments très simples, table, chaise, éléments de lumière, quelques accessoires.
Bon, vous ne verrez pas la bête humaine, c'est-à-dire la locomotive. Peut-être que vous l'entendrez d'une manière ou d'une autre, elle est là quelque part,
oui,
cette
et
locomotive.
La bande son, sans
parce
doute,
que le train à l'époque désigne aussi, je dirais, cette pulsion.
C'est-à-dire oui, parce que c'est un monstre
pousse,
en lui-même.
C'est un monstre en lui-même.
Oui, et puis c'est toute la caractéristique de l'écriture de Zola, qui est une écriture très métaphorique et dans laquelle les métaphores sont charnelles, les métaphores renvoient véritablement au corps, et la monstruosité de la machine va renvoyer à une autre monstruosité. C'était exactement la même chose avec la mine dans Germinal. Hein, et dans la réécriture, puisque les dialogues ont été réécrits, on va entendre aussi quand même si c'est transposé au XXIe siècle, on va entendre aussi la gouaille de la langue de Zola.
Vous allez rencontrer tous les mots que vous connaissez encore aujourd'hui, parce qu'en particulier dans l'Assommoir.
Oui, et pour qu'il y ait effectivement cette couleur ouvrière de l'époque et ce franc-parler, ces blanchisseuses, ces ouvrières qui s'interpellent, qui s'attaquent,
qui se battent,
qui se battent. Il y a vraiment
peut-être
tout un travail.
Peut-être que ça commence d'ailleurs par ce combat.
Oui, par la jalousie entre elles. Puisque leur survie aussi dépend souvent quand même du rapport qu'elles ont avec les hommes. Et ça aussi, c'est une chose aussi. Une femme qui a besoin de travail, et elle a besoin aussi, de temps en temps, du soutien des hommes. Et ce soutien, il est monnayé. Enfin, il y a toute cette question aussi qui est évoquée.
Enfin, beaucoup de raisons. Vous voyez qu'on n'en finit pas de parler de ces pulsions, de cette bestialité, de cette incroyable violence qui va être présentée sur le plateau le jeudi 29 janvier à 19h, le vendredi 30 janvier à 20h. C'est aussi l'occasion peut-être pour vous de relire ou de revoir ce qu'il en est de ces textes de Zola, parce qu'on connaît la plupart du temps, on ne connaît que Germinal parce qu'on l'a vu en film, mais là c'est un peu autre chose et c'est plutôt passionnant.
Oui, de voir comment les deux romans ont été assemblés et réécrits pour vous proposer ce spectacle. Alors, c'est un peu à la mode d'adapter des romans au théâtre. Vous aviez déjà pu voir Les Illusions perdues de Balzac par une autre troupe il y a quelques temps. Et ben là, c'est Zola qui est à l'honneur.
Eh ben, même le théâtre qui reprend tous les romans du 19e, vive le théâtre. À bientôt.